Donc, je vais donner la parole à Éric Vivier. Éric Vivier est professeur d'immunologie à la faculté de médecine de Marseille. Et il dirige un très important centre de recherche en immunologie qui est situé là-bas sur les Calanques. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit merveilleux. Le centre d'immunologie de Marseille du Mini, qui est renommé mondialement pour toute une série de travaux importants. Donc, Éric lui-même est, comme l'indique le titre de son séminaire, est particulièrement spécialisé dans l'étude des lymphocytes natural killers, dont il a décrit un grand nombre de caractéristiques moléculaires et fonctionnelles. Et à partir de ses travaux, ça l'a amené à élargir ses spectres d'intérêt, à la fois sur un plan fondamental, jusqu'à donc une nouvelle théorie du déclenchement des réponses immunes, dont il va nous dire un mot, théorie de la discontinuité, mais aussi sur des applications pratiques. L'immunologie a quelques applications médicales, comme vous savez. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu. Très bien. Est-ce qu'on peut utiliser, manipuler, entre guillemets, au sens le plus beau possible du terme, les cellules natural killer ou d'autres cellules pour augmenter les réponses immunitaires et, en l'occurrence, plutôt pour essayer de traiter des cancers? Merci, Éric.
Merci beaucoup, Alain. C'est un grand honneur que d'être là. C'est toujours un endroit fascinant, le Collège de France. J'étais impressionné encore par voir non seulement la qualité de la présentation qui vient d'être faite par Alain, mais aussi le fait qu'ici, c'est un endroit gratuit, sans diplôme. C'est absolument extraordinaire. Voilà, écoutez, je vais essayer de vous présenter effectivement ces cellules qui me tiennent à cœur depuis déjà une petite vingtaine d'années, qui sont les cellules natural killer, et vous montrer comment on est passé de la dissection du fonctionnement des cellules natural killer à la participation à la découverte d'un nouveau monde de lymphocytes dont Alain a un peu parlé, qui sont les cellules lymphoïdinées, ou innate lymphoid cells, et puis vous présenter quatre histoires, j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout, enfin quatre petites histoires, dont la plupart ne sont pas encore publiées. Donc, quelques mots d'introduction sur ces cellules natural killer. Donc, Alain les a présentées comme étant des lymphocytes, effectivement. Ce sont des lymphocytes qui sont des lymphocytes dits granuleux. Morphologiquement, c'est très difficile pour un anatomopathologiste de les distinguer de cellules T cytotoxiques. Elles contiennent des granules intracytotoxiques qui elles-mêmes contiennent des molécules qui vont induire la mort de certaines cellules qui vont leur servir de cible. Ces cellules donc peuvent être cytotoxiques comme je viens de le dire, mais elles peuvent aussi sécréter toute une série de cytokines dont l'interféron gamma et le TNF-alpha pour celles qui sont les plus connues. Alors ces cellules NK sont effectivement impliquées, je vais vous le montrer, dans le contrôle de certaines pathologies virales. C'est d'autant plus vrai chez la souris dans laquelle on contrôle ces infections virales. Je vous montrerai, j'essaierai d'illustrer pourquoi c'est difficile de poser cette question-là chez l'homme. Elles sont aussi impliquées, et ça a été montré encore une fois chez la souris, dans le contrôle de développement, du développement tumoral, mais on peut essayer de les manipuler chez l'homme, et ça sera l'objet d'une des quatre histoires dont je vais vous parler. Et je ne reparlerai pas de ça, mais c'est quelque chose qui est absolument fascinant, c'est le fait que les cellules NK envahissent littéralement l'utérus en gestation, en particulier chez la femme, pendant le premier trimestre de gestation, cet utérus est envahi par les cellules NK. Et il y a certaines expériences qui tentent à prouver que les cellules NK sont importantes pour modifier le diamètre des artères spirales utérines. Vous savez que lors de la gestation, un des problèmes importants, c'est d'apporter du sang au fœtus, et ceci se passe en particulier par un remodelage des artères spirales utérines qui voient leur diamètre augmenter. Les cellules NK seraient indirectement ou directement impliquées dans ce remodelage. Donc je vais essentiellement vous parler de ces deux fonctions-là. Il se trouve que avant de rentrer plus dans le détail, je voulais juste mentionner aussi qu'il y a un thème émergent parmi ceux d'entre nous qui s'intéressent aux cellules NK. C'est le côté, le mauvais côté entre guillemets des cellules NK, c'est-à-dire la participation des cellules NK dans certaines lésions tissulaires. Alors pour essayer de replacer les cellules NK dans une certaine physiologie immunitaire, il se trouve que les cellules NK ont cette particularité de pouvoir reconnaître des cellules, tout un tas de cellules, qui ont comme seul caractère commun le fait d'être en situation de stress, stress moléculaire qui peut être la conséquence d'altération du DNA, et donc en particulier présent lors de la transformation tumorale, mais aussi suite à des infections microbiennes, qu'elles soient d'origine fongique, bactérienne ou virale, mais aussi de stress physique ou chimique. Et il se trouve que ces cellules NK, bien que ce sont des lymphocytes, elles n'expriment pas de récepteurs spécifiques de l'antigène au sens où on l'entend quand on parle des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Donc elles ne produisent pas d'anticorps, elles n'expriment pas de récepteurs T spécifiques de l'antigène. Elles sont par contre armées, et j'y reviendrai, d'une panoplie de récepteurs qui leur permettent justement de distinguer le bon grain, c'est-à-dire les cellules normales qu'elles vont épargner, de l'ivraie, c'est-à-dire ces cellules stressées, et qu'elles vont pouvoir reconnaître par l'intermédiaire de ces récepteurs. Et je voudrais juste signaler qu'elles peuvent reconnaître aussi ces cellules par l'intermédiaire d'anticorps, car les CUNK expriment un récepteur FC, c'est-à-dire une molécule qui permet de reconnaître les complexes humains, et c'est très important en particulier dans le traitement de certaines pathologies tumorales, où on sait que des anticorps thérapeutiques qui sont ciblés contre les cellules tumorales peuvent être ensuite reconnus par les CUNK. Les CUNK participent à l'élimination de ces cellules tumorales. Donc, comme je vous l'ai dit, une fois que les CUNK peuvent reconnaître de manière sélective leurs cibles, elles peuvent induire la mort de ces cibles, et il se trouve que les débris qui sont produits lors de cette lyse cellulaire ont été montrés par certains collègues comme participant à l'organisation de la réponse immunitaire adaptative qui s'ensuit, en particulier de la réponse T dans une orientation de type TH1. Par ailleurs, les CUNK produisent des cytokines, comme j'ai dit, en particulier le gamma-interféron, mais personne n'est parfait, et il se trouve que les CUNK sont complexes, bien évidemment, comme toutes les autres cellules, et dans certaines situations, eh bien, où, plutôt que de produire de l'interféron gamma, qui là aussi va orienter les cellules T vers une réponse de type TH1, eh bien, dans certaines autres situations, elles vont plutôt produire de l'IL-10, qui va faire exactement l'inverse, pour faire simple. Donc, vous voyez, cette dualité de fonction, cytotoxicité et production de cytokines, et une participation non seulement comme première ligne de défense contre tout un tas d'agents, agents microbiens, processus tumoraux, mais aussi un rôle dans le façonnage, dans l'organisation de leur réponse immunitaire adaptative qui s'ensuit. Alors, du point de vue du développement, il se trouve que le monde était assez simple, on peut dire, il y a encore 5-6 ans, quand on considérait qu'il y avait des progéniteurs communs lymphoïdes qui pouvaient donner naissance aux cellules T. Vous voyez toute une série de cellules T d'un côté, des cellules T plutôt helper ou régulatrices, et puis des cellules T cytotoxiques, des cellules B également, et puis des CUNK qui étaient un peu mises sur le côté comme seul exemple de lymphocytes innés. Il se trouve qu'au laboratoire, on s'est posé la question de l'identification des cellules NK à travers les différentes espèces de mammifères. Et on s'est attaché à essayer donc d'identifier des gènes qui étaient spécifiques des cellules NK ou préférentiellement exprimés par les cellules NK, non seulement chez l'homme, mais aussi chez la souris. On a continué comme ça jusqu'à l'opossum. Et on s'est aperçu qu'il y avait ce gène qui codait pour cette molécule de surface appelée NKp46, qui permettait effectivement de définir plutôt pas mal les CUNK à travers les différentes espèces de mammifères. On a donc généré des anticorps monoclonaux contre NKp46, et vous voyez là l'exemple d'une immunofluorescence sur une coupe de rate de souris au repos, dans lequel on distingue des zones dans lesquelles, vous voyez, on voit des cellules T, des cellules B, et puis une zone qui contient les CUNK, et en fait cette zone est très importante, puisqu'elle ne contient pas que les cellules NK, mais tout un tas d'autres cellules. Il s'agit de la pulpe rouge de la rate, dans laquelle il y a des hématies, des macrophages, certaines populations de cellules B. Alors, je vous raconte cette histoire, puisqu'en réalité, on est souvent surpris en science, et quand on est surpris, c'est plutôt bon signe. Alors, on a donc utilisé cet anticorps pour essayer de voir où étaient les CUNK, et on est tombé sur cette image. Vous reconnaissez certainement l'intestin, et vous voyez donc des agrégats de cellules à l'intérieur de l'intestin. Et en fait, pour faire donc une histoire plus courte, il se trouve que les cellules NK, ici décorées en vert, sont présentes donc dans ces agrégats lymphoïdes qui contiennent aussi des cellules B, mais aussi les cellules dont Alain a un petit peu parlé, qui sont les LTI, lymphocytes tissue induced cells, qui sont des cellules très importantes dans l'embryogenèse pour la formation des organes lymphoïdes secondaires. Et en fait, il se trouve que les CUNK partagent avec ces cellules-là un même facteur de transcription. Ce facteur de transcription est la molécule ROR gamma T. Et donc, en fait, on a cru au départ que ces cellules étaient des CUNK. Il ne s'agit pas de CUNK, il s'agissait d'un exemple de ce nouveau monde de lymphocytes, comme j'aime l'appeler, qui sont donc les cellules innées lymphoïdes. Et donc, vous voyez que NKp46 est exprimé sur les CUNK, mais aussi sur ces populations de cellules. À la différence des cellules NK, ces cellules ne sont pas cytotoxiques. À la différence des CUNK, elles ne produisent pas de gamma-interféron, mais elles produisent une cytokine extrêmement intéressante qui est l'IL-22. Et j'y reviendrai, j'essaierai de vous convaincre pourquoi cette cytokine est effectivement une cytokine intéressante. Donc vous voyez, une molécule NK spécifique, mais avec des exceptions, et ce qui nous a permis donc d'identifier ces nouvelles populations de cellules. Juste pour vous confirmer par des données qu'effectivement ces cellules, bien qu'exprimant NKp46, sont très différentes des cellules NK, on peut maintenant identifier des listes de gènes qui sont exprimés dans telle ou telle population et par des algorithmes mathématiques essayer donc de demander à l'ordinateur si effectivement ces groupes de gènes permettent d'identifier telle ou telle cellule ou quelles sont les différences entre telle ou telle cellule sur la base de l'étude de ces groupes de gènes. Et ces études s'appellent en particulier les analyses en composants principaux. Et on s'aperçoit que les CUNK, effectivement, vous voyez, sont très éloignés des cellules dont je viens de parler et qui sont ici. Alors, on essaye maintenant de faire évoluer la diapositive que je vous avais montrée et de la mettre au goût du jour, eh bien, vous voyez que le monde des lymphocytes est beaucoup plus complexe que celui qu'on imaginait il y a encore que quelques années, puisque de manière assez surprenante et assez intéressante, parce que ça permet de poser des hypothèses et d'essayer de tester ces hypothèses expérimentalement, il semblerait que pour toutes les sous-populations, ou pour de nombreuses sous-populations de lymphocytes T, il existe des équivalents innés de ces populations de lymphocytes T, des équivalents innés qui sont quand même d'origine lymphoïde, mais qui, voyez, partagent avec ces populations de cellules T les mêmes facteurs de transcription et les mêmes cytokines, par exemple, là, la production de gamma-interféron par les TH1, mais aussi par ce groupe d'ILC qu'on appelle les ILC1, etc., etc. Et les CUNK donc, ne sont pas toutes seules comme cellules innées lymphoïdes, mais elles sont quand même toutes seules dans le groupe des cellules innées lymphoïdes qui sont cytotoxiques. Vous voyez quand même, je pense que ce parallèle est très intéressant, encore une fois, il suggère des expériences à réaliser. Alors sur le rôle des ILC, Alain les a mentionnés un petit peu, en fait c'est quelque chose qui reste vraiment à disséquer à l'heure actuelle, et je veux juste insister sur le rôle de l'IL-22. Je vous ai dit que l'IL-22 était une cytokine qui était très intéressante. Donc, je ne vais pas aller à travers tous ces schémas, dont la plupart sont des schémas qui sont purement spéculatifs, qui donnent envie, encore une fois, de faire des expériences pour tester ces hypothèses. Mais je vais revenir sur le rôle putatif joué par l'IL-22, sécrété par ces ILC3, c'est-à-dire les cellules qu'on a identifiées au départ, qui expriment NKp46, mais qui expriment aussi ROR gamma T, mais qui ne sont pas des cellules NK, car elles font autre chose que de la cytotoxicité et de l'interféron gamma, elles font l'IL-22. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que l'IL-22 a cette particularité que les récepteurs de l'IL-22 sont sélectivement exprimés par les cellules d'origine non hématopoïétique, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas des cellules du sang, mais au contraire des cellules qui sont en particulier des cellules des épithéliums. Et ce qui vous permet de comprendre assez rapidement que l'IL-22 est vraiment un messager entre les cellules du système immunitaire qui vont produire de l'IL-22 à l'intérieur de cette muqueuse intestinale et les cellules épithéliales intestinales qui, elles, vont recevoir ce message de l'IL-22 et faire des activités qui sont extrêmement importantes pour le maintien de l'intégrité de l'épithélium intestinal, à savoir produire des peptides antimicrobiens, et donc contrôler l'environnement microbien à l'intérieur de la lumière intestinale, ce qui est effectivement très important, et deuxièmement, contribuer au contrôle de l'inflammation et de la réparation de l'épithélium intestinal. Donc vous voyez qu'il existe encore une fois un monde de lymphocytes dont il faut trouver les fonctions et qui semble être l'équivalent inné de ces populations de lymphocytes qu'on connaît bien par ailleurs. Donc, pour essayer de rester dans le temps qui m'a été donné, je vais me concentrer maintenant sur les CUNK, canal historique en quelque sorte, les CUNK qui expriment NKp46, qui sont cytotoxiques et qui produisent de l'interféron gamma. Et une question que l'on se pose dans le laboratoire depuis des années, c'est de savoir véritablement quel est le rôle des CUNK chez l'homme. Alors, ce n'est pas une question facile, puisqu'en réalité, à l'inverse de ce qui se passe dans certaines immunodéficiences, dans lesquelles on a des immunodéficiences sélectives, par exemple l'immunodéficience sélective des cellules T ou des cellules B ou des neutrophiles chez l'homme, et on peut comme ça comprendre vraiment le rôle de ces cellules in natura, c'est beaucoup plus compliqué de le faire chez l'homme, car il existe toujours très peu d'individus qui présentent des déficits qui sont de manière convaincante sélectifs en l'absence de cellules NK. Quoi qu'il en soit, il existe un modèle que nous avons travaillé avec Jean-Laurent Casanova et qui est effectivement un modèle dans lequel il semble, mais ces expériences doivent être encore complétées par d'autres, qu'il existe un déficit sélectif à l'intérieur du compartiment immunitaire dans ces cellules NK. Et en fait, les individus qui sont très peu nombreux, il existe moins d'une vingtaine d'individus au monde répertoriés à ce jour qui présentent ce déficit qui, pour l'instant, semble spécifique des cellules NK. Mais il se trouve que ces individus présentent des mutations dans un gène qui s'appelle MCM4, qui est une molécule, enfin, un gène qui code pour une molécule qui est impliquée dans, enfin, qui est une hélicase en réalité, qui intervient dans le contrôle de la replication du DNA. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces individus sont malades. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les repère. Et ils présentent des pathologies à expression pédiatrique, donc c'est quelque chose qui est important au départ pour le contrôle de la réponse immunitaire. Et il se trouve que même s'il y a très peu d'individus, encore une fois, le caractère commun à ces individus consiste en des pathologies qui touchent le poumon. À la fois donc des fibroses pulmonaires, des pneumonies interstitielles. Donc ça nous donne une idée quand même, peut-être, du rôle préférentiel et peut-être non redondant que pourraient jouer les cellules NK dans le contrôle de certaines infections pulmonaires. Il se trouve que pour des questions dans lesquelles je ne vais pas rentrer, enfin pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, les examens médicaux qui sont associés à ces patients ont été très compliqués à recueillir et donc on reste un peu sur notre faim. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une autre étude qui a été faite à Paris en collaboration avec le groupe d'Eric Ossenhändler à l'hôpital Saint-Louis, dans lequel nous avons étudié une autre cohorte d'individus immunodéficients qui présentent, eux, une hypogammaglobulinémie. Donc, ils sont tous caractérisés par le fait de présenter, à des degrés divers, des symptômes liés à une immunodéficience qui est elle-même liée au fait qu'ils produisent peu d'immunoglobuline. Et en fait, il y a beaucoup de patients à l'intérieur de cette cohorte et nous avons pu, à l'intérieur de cette cohorte, stratifier les patients quant au nombre de CUNK que ces individus présentaient. Et en fait, quand on s'intéresse à la survie de ces patients à travers le temps, vous voyez là une analyse qui a été faite donc, sur plusieurs années, l'analyse là, est en mois, vous voyez que si on groupe les individus en individus qui ont des nombres normaux de CUNK ou des nombres intermédiaires de CUNK, c'est-à-dire compris entre 50 et 100 selon notre classification, ou des individus qui ont vraiment une déficience NK, c'est-à-dire inférieure à 50 CUNK par millimètre cube, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence statistique quant à la survie de ces individus, bien qu'une tendance puisse être détectée. Mais maintenant, quand on ajoute un deuxième problème à ces individus, c'est-à-dire que ces individus, on sait déjà qu'ils ont une hypogammaglobulinémie, ça a été à l'origine de l'inclusion dans cette cohorte, mais il se trouve que certains de ces individus ont aussi un déficit T. Et bien là, on s'aperçoit que le fait de ne pas avoir de CUNK devient problématique. Si vous comparez, par exemple, les courbes bleues et les courbes vertes, où on a des nombres de T qui sont comparables, et la seule différence dans cette analyse qui est prise en compte, qui est le nombre de NK, vous apercevez que s'il y a beaucoup de NK ou peu de NK, ça ne fait pas grosse différence. Par contre, quand on s'intéresse à des individus qui sont déficient pour le compartimenter, et vous voyez que le fait de ne pas avoir de NK, la courbe jaune, est franchement différent de la courbe en rouge, qui est celle qui correspond aux individus qui ont des CUNK. Donc on s'aperçoit que peut-être que le rôle des CUNK, ce n'est pas forcément un rôle par lui-même, mais c'est un rôle qui s'associe à d'autres compartiments du système immunitaire et qu'en l'absence d'un compartiment T, par exemple, et bien les CUNK pourraient avoir un rôle particulièrement important. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, ce sont les pathologies qui sont associées à cette déficience NK. Et on s'aperçoit que les pathologies qui sont mises en évidence, et c'est vraiment une analyse en cours, hein, ce sont des données qui ont été récupérées il y a moins d'un mois, on s'aperçoit que là aussi, on a un spectre particulier, un tropisme particulier pour les pathologies pulmonaires. Et quand on regarde maintenant, à la fois chez l'homme et chez la souris, où les CUNK sont le plus représentés, eh bien, il se trouve qu'en pourcentage par rapport aux autres lymphocytes, c'est dans le poumon que les CUNK sont le plus représentés. Et donc, il y a peut-être là quelque chose à revisiter. Donc, pour finir avec cette analyse qui est vraiment en cours, hein, je voulais juste vous dire que, premièrement, cette étude me semble intéressante parce qu'elle montre qu'effectivement une déficience en CUNK peut conduire à des pathologies chez l'homme. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Que deuxième surprise, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas une augmentation de l'incidence des pathologies virales comme on pouvait s'y attendre, en particulier à travers l'étude de nombreuses études chez la souris, mais plutôt une tendance à une sensibilité particulière pour ces individus qui ont peu de CUNK dans des infections bactériennes avec un tropisme pulmonaire. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et que l'on veut continuer. Donc, le message de cette première partie est que, effectivement, les déficiences en NK, qu'elles soient sélectives ou pas, peuvent conduire à des pathologies chez l'homme. Alors, je vais maintenant essayer de vous montrer notre tentative d'accélérer le processus de génération de mutants qui pourrait être informatif quant à mieux comprendre le rôle des CUNK in vivo. Et pour ceci, nous avons commencé avec Sophie Ugolini il y a maintenant quelques années, pratiquement une dizaine d'années, en collaboration avec Bruce Beutler, quand il était encore au Scripps à San Diego, un large programme qui consistait à induire des mutations ponctuelles dans le modèle de souris. En fait, pour faire simple, on utilise un produit chimique qui s'appelle l'ENU, on prend des mâles, et ces mâles sont traités par l'ENU, et il se trouve que l'ENU a la bonne idée d'introduire des mutations ponctuelles dans le DNA de certaines cellules, et en particulier des spermatozoïdes. Ce qui permet donc de transmettre ces mutations ponctuelles en croisant ces mâles qui ont reçu l'ENU avec des femelles qui, elles, sont wild-type, et donc transmettre aux générations successives, et poser la question que l'on veut. Il se trouve que nous, on a voulu poser des questions qui s'intéressaient au phénotype NK, pas simplement en nombre de cellules, mais aussi, comme vous allez le voir, en fonction, c'est-à-dire est-ce que les CUNK dans ces souris sont toujours efficaces ou pas. Et sans rentrer dans le détail, on a screené ce qu'on appelle des mini-pédigrés, qui sont tous issus d'un même mâle qui a reçu l'agent de mutagénèse. Et dans ce mini-pédigré, on s'attendait à voir des individus, disons que des animaux qui étaient normaux, qui étaient wild-type, des individus qui étaient hétérozygotes pour une mutation transmise par le mâle, et puis des individus qui étaient homozygotes pour ces mutations. Et vous voyez ici l'exemple de mini-pédigré, hein, où on a là, par exemple, simplement l'étude de la cytotoxicité des cellules NK d'une cohorte de souris normale. Vous voyez qu'il y a une certaine variabilité expérimentale classique en biologie. Vous voyez maintenant que, par exemple, dans ces mini-pédigrés 148, 232 ou 197, vous avez une hétérogénéité de la réponse des CUNK. Chaque point correspond à l'activité des CUNK d'une souris donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui est entouré ici, vous avez donc ce que nous, on considère comme étant anormal, et que la fréquence d'apparition de ces animaux anormaux correspond à une transmission mendélienne d'un caractère donc monogénique, récessif et non lié au sexe. Et il se trouve que nous avons testé plus de 4000 souris. De manière intéressante, je peux signaler qu'on n'en a retenu que 6, ce qui semble donc effectivement un rendement assez peu... assez mauvais en réalité, mais du point de vue de la science, ça a été très intéressant parce que chacune de ces 6 mutations nous a appris vraiment beaucoup sur le fonctionnement des CUNK. Et j'aimerais maintenant décrire pour vous cette mutation 148 où vous voyez qu'effectivement, il y a une fraction des animaux qui ont une activité NK qui est basse. En fait, ces animaux ont une particularité d'abord au niveau du pelage, ils deviennent progressivement blancs. D'où le nom de la mutation qu'on a appelée Wattels en référence à un acteur qui vend du café. Vous voyez qu'au cours du temps, effectivement, ces souris qui étaient noires au départ, hein, toutes les souris sont noires, vous voyez que progressivement, elles acquièrent des poils blancs. Cette souris, donc, était noire à la naissance. Bon, ce n'est pas ce qui nous a passionné le plus, mais en fait, ça nous a permis de les repérer, car de manière intéressante, les souris blanches, qui étaient noires au départ, était aussi caractérisée par une absence de lymphocytes, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, en séquençant le génome de ces souris, par des techniques maintenant de deep sequencing, on a pu identifier la mutation. Et c'est une mutation qui n'avait jamais été décrite dans un gène qui, lui, est très connu, qui est le gène donc BCL2, qui code pour cette protéine, qui est une protéine anti-apoptotique. C'est une molécule dont la présence va essayer de bloquer la mort cellulaire par apoptose. Il se trouve que cette molécule BCL2 a plusieurs domaines qui sont identifiés, un domaine BH4 en particulier, et il se trouve que la mutation ponctuelle induite par l'ENU au départ induit cette mutation, qui est une mutation extrêmement significante, entre une tyrosine et une cystéine. La conséquence de cette mutation, et pour des raisons qui restent obscures pour nous, c'est qu'il n'y a absolument pas de protéine qui peut être détectée par les techniques classiques que nous avons utilisées, par immunoblotting ou par cytométrie intracytoplasmique, et ceci à l'intérieur des lymphocytes. Et donc l'absence de BCL2 dans ces lymphocytes se traduit par une lymphopénie, une panlymphopénie qui intéresse à la fois les compartiments NK, comme vous le voyez ici, CD8 ou CD4 ou cellules B. Alors, en s'intéressant plus particulièrement sur les CUNK, on a voulu savoir à quel stade du développement il y avait pu avoir un impact de cette molécule BCL2. Vous voyez représentées ici différentes étapes du développement des CUNK telles qu'on les caractérise chez la souris grâce à deux marqueurs qui sont CD27 et CD11B. Pour faire court, le parcours des NK, c'est celui-là, donc avec acquisition séquentielle de ces marqueurs qui nous permettent d'identifier à quel stade du développement on est. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il existe clairement un blocage qui n'est pas complet, mais qui est partiel et très signifiant, donc du passage de ce compartiment-là à ce compartiment-là. Vous pouvez apprécier qu'effectivement, dans ce mutant BCL2, what else, il y a donc beaucoup moins de passage des cellules de ce stade-là à ce stade-là, et c'est accompagné par un déficit en autres marqueurs également. Du point de vue fonctionnel, ce qui était remarquable, c'est que bien qu'on ait une lymphopénie, ces cellules n'arrêtent pas de proliférer. En fait, on peut le voir grâce à un marquage qui s'appelle, grâce à un marqueur qui s'appelle KI67. Et vous voyez que quand on compare des cellules NK issues d'une cellule normale parentale par rapport à des cellules NK issues d'une cellule d'une souris mutante, pardon, vous voyez qu'à chaque fois, il y a beaucoup plus de prolifération, encore une fois, vu par ce marqueur. C'est vrai aussi par des marquages au BRDU. Et pour finir cette analyse, quand on met des cellules NK en culture, en comparant encore une fois des CUNK issus de souris normales par rapport aux souris mutantes, on s'aperçoit qu'on peut induire une prolifération, mais à la fin, il y a beaucoup moins de cellules dans ces animaux issus de ces cultures qui proviennent des animaux mutants par rapport aux animaux parentaux. Vous pouvez voir donc la différence. Donc pour faire court, et je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les datas, mais en réalité, cette mutation nous a permis de mettre en évidence un point important dans la maturation des cellules NK qui consiste dans la prolifération. Il se trouve que depuis que les cellules NK ont été découvertes, il y a maintenant près d'une quarantaine d'années, elles sont réputées pour ne pas pousser en culture. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de les faire pousser en culture par rapport aux cellules T et aux cellules B. Et juste parce qu'elles ne poussaient pas de la même manière que les T ou les B, on a considéré de manière un peu rapide, me semble-t-il, que la prolifération des cellules NK n'était pas importante. En fait, on s'aperçoit que dans le contexte d'infection virale, en particulier dans des modèles de souris, il y a une prolifération extrêmement importante des CUNK. Et là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que dans le processus normal de différenciation des NK, la prolifération est aussi importante. Et donc, c'est quelque chose qui n'avait pas été vu pour l'instant. Et BCL2 est une molécule importante pour le contrôle de cette prolifération. De manière intéressante, ça nous ramène aux patients MCM4 dont je vous ai parlé précédemment, puisqu'en réalité, voici maintenant les étapes de différenciation des CUNK, non plus chez la souris, mais chez l'homme. Et on s'aperçoit en fait qu'en étudiant ces patients qui étaient déficients pour MCM4, on avait égal un blocage qui est représenté ici, et justement un blocage dans des étapes qui semblent exactement similaires, correspondre à celles dont j'ai décrit pour le mutant BCL2 chez la souris, à savoir que là aussi, dans ce modèle d'immunodéficience NK chez l'homme, la prolifération, puisque MCM4 est un gène qui va contrôler la prolifération des cellules, semble importante. Donc le deuxième message que je voulais vous présenter, c'est celui-là, c'est qu'effectivement, le développement NK est associé à une prolifération, une division de ces cellules, et c'est quelque chose qui n'avait pas été mis en évidence pour l'instant. Alors comme Alain l'a dit gentiment dans son introduction, depuis maintenant une quinzaine d'années, on s'est posé la question de savoir si on pouvait essayer de manipuler les cellules NK pour développer de nouveaux traitements dans le cancer. On n'a pas été totalement naïf, on savait bien et on sait toujours qu'on ne comprend pas tout dans la biologie des cellules NK, mais on s'est quand même posé ce challenge de dire, voilà, est-ce que même si on ne connaît pas tout, on peut quand même essayer de développer de nouveaux outils rationnels pour essayer de lutter contre le cancer. sachant que les cellules tumorales sont effectivement une des cibles privilégiées des cellules NK. Alors là, il me faut rentrer dans quelque chose qui est simple, mais qu'il faut quand même bien suivre, puisqu'en réalité, à l'instar de ce que je viens de dire, un petit peu pour la prolifération des T versus la prolifération des NK, le mode de reconnaissance des cibles par les cellules NK, ce dont je vais vous parler maintenant, est considéré par certains immunologistes qui voient beaucoup à travers les T et les B comme quelque chose d'inverse par rapport à leur manière de réagir d'habitude. Et donc, je vous demandais un petit peu d'attention. Il se trouve que les cellules NK sont équipées de deux types de récepteurs qui ont des activités antagonistes. Premièrement, des récepteurs activateurs, qui sont là, pour le coup, des équivalents, avec des guillemets, du récepteur T pour les lymphocytes T ou des immunoglobulines de surface pour les cellules B, c'est-à-dire des molécules qui activent des programmes à l'intérieur de la cellule quand ces molécules reconnaissent leur ligand. Et puis, des molécules inhibitrices. Et la molécule inhibitrice ou le groupe de molécules inhibitrices les plus connues sur les cellules NK, en particulier chez l'homme, sont des molécules qui sont représentées ici, qu'on appelle les KIR, et qui reconnaissent les molécules de classe 1. Alors c'est là où effectivement la reconnaissance des cellules NK est en fait inverse d'un certain point de vue de la reconnaissance des cellules T, c'est qu'on vous a certainement dit, vous savez, que les molécules de classe 1 chargées en peptides sont reconnues par les TCD8+, et peuvent activer le récepteur T, et bien là je suis en train de vous dire que les mêmes complexes CMH peptides, vous voyez le peptide est en rose ici, ces complexes CMH peptides peuvent servir en fait de ligands pour des récepteurs inhibiteurs, pour les cellules NK, et qui font juste l'inverse, c'est-à-dire plutôt que d'activer la cellule, ils vont plutôt inhiber la cellule. Alors, vous pouvez imaginer que c'est un, et ça a effectivement été montré, que c'est un mécanisme très efficace de tolérance, puisque, de manière intéressante, les molécules de classe 1 sont très exprimées par la quasi-totalité des cellules, à l'exception des globules rouges et des gamètes, et de certains neurones, mais quand elles sont exprimées à une avec un très grand nombre de copies à la surface. Donc il est très facile, entre guillemets, pour une cellule NK de reconnaître les molécules de classe 1, puisqu'effectivement ça fait partie des molécules de surface qui sont les plus exprimées dans l'organisme. Eh bien, le mode de reconnaissance des cellules NK, c'est justement de reconnaître qu'est-ce qui fait partie de l'organisme. Et on va voir à la fin, quand on va essayer de revisiter un peu ces notions de self et non-self, de soi et non-soi, dont vous avez certainement entendu parler, que les cellules NK se distinguent là des cellules T, déjà, puisque les cellules NK ont cette propriété de reconnaître l'absence de molécules de classe 1. Et pourquoi elles peuvent, ou plutôt comment elles peuvent reconnaître l'absence de molécules de classe 1? Eh bien, c'est facile, puisqu'en réalité, vous comprenez ici que si les molécules de classe 1 inhibent les cellules NK, eh bien, quand il n'y a pas de molécules de classe 1, les cellules NK vont avoir tendance à être plus activées. Mais, comme je vous l'ai dit, les globules rouges qui n'ont pas de molécules de classe 1 ne sont pas tués par les cellules NK. Donc, les récepteurs inhibiteurs sont une partie de l'histoire, mais ne sont pas toute l'histoire. Et en fait, ce qu'il a été montré, c'est qu'il existait effectivement des récepteurs activateurs dont je vous ai montré, enfin, dont je vous ai parlé. Et la particularité de ces récepteurs activateurs, pour ceux que l'on connaît à l'heure actuelle, c'est que leurs ligands ne sont pas exprimés en situation normale. Leurs ligands sont codés par des gènes qui sont réprimés en situation normale. Mais en situation de stress, par exemple un stress physique, un stress chimique, une altération du DNA, une transformation tumorale, une infection bactérienne, une infection virale, une infection parasitaire, il se trouve que ces gènes sont maintenant exprimés et donc donnent naissance à l'expression à la surface de ligands pour ces récepteurs activateurs. Donc, si je me récapitule, on doit comprendre qu'ici, les cellules NK sont insensibles à cette cellule-là pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elles n'ont rien pour être activées, vu qu'il n'y a pas de ligand pour les récepteurs activateurs. Et puis en plus, de toute façon, elles sont inhibées dans leur fonction parce que ces cellules expriment des molécules de classe 1. On voit ici que dans une situation de stress, eh bien, la cellule NK est capable d'intégrer ces signaux. Et pour faire très simple et de manière arithmétique, évidemment simplistique, on peut imaginer que dans cette situation-là, illustrée dans cette diapositive, vous avez un signal positif qui est issu de la reconnaissance de cette molécule par ce récepteur activateur, un autre signal positif ici, et puis il y a toujours ce signal négatif, mais 2 plus et 1 moins, ça ferait 1 plus, et la cellule NK aurait tendance à être activée. Vous pouvez comprendre donc que s'il n'y a pas ce frein, la cellule NK serait encore plus activée. Bien évidemment, je m'excuse du côté extrêmement simpliste de la manière dont je présente cette reconnaissance NK, mais il se trouve que quand même, ce mécanisme, cette illustration semble rendre compte de ce qu'on peut comprendre de la biologie des cellules NK à la fois in vivo et in vitro. Donc, en conclusion de ces mécanismes de reconnaissance NK, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que les cellules NK, dans une situation normale, steady state, sont bloquées, elles sont tolérantes aux cellules du même organisme, ce qui fait effectivement beaucoup de sens, que ceci se passe de deux manières différentes, par exemple parce qu'il n'y a pas beaucoup de ligands pour les activer, il n'y a pas beaucoup de ligands pour ces récepteurs activateurs, et qu'au contraire, il y a plutôt beaucoup de ligands, qui sont les molécules de classe 1, pour des récepteurs inhibiteurs. Je vous ai dit aussi que dans certaines situations, il pouvait y avoir une perte de ces molécules de classe 1. Ces situations, c'est en particulier certains types d'infections virales, et en particulier des infections à certains herpès virus, qui se traduisent donc par la perte des molécules de classe 1. Et là, on peut imaginer que si on perd classe 1, vu qu'il reste 1+, eh bien, SUNK va être activé. Et dans d'autres situations, les molécules de classe 1 sont toujours là, mais il y a une surexpression des molécules qui servent de ligands récepteurs activateurs. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le stress-induced self, et qui permet aussi l'activité des CUNK. Donc, sur cette base, et qui est représentée ici, donc encore une fois, des CUNK avec des récepteurs activateurs, des CUNK avec des récepteurs inhibiteurs, qui reconnaissent des ligands induits par le stress, donc qui caractérisent des cellules qui sont en état de stress, et puis d'un autre côté, des molécules de classe 1 qui sont exprimées par contre partout, et bien comment on peut faire avec ça comme paramètre de base pour essayer de mettre en place de nouveaux traitements contre le cancer? Et bien c'est très simple en réalité, enfin, en tout cas théoriquement, il suffit de bloquer cette inhibition. On peut se dire premièrement que les cellules normales ne seront pas attaquées par les cellules NK, puisque je vous ai dit que justement ce qui activait les cellules NK était induit par le stress. Donc on peut imaginer que les cellules normales, encore une fois, n'expriment pas ces ligands qui sont représentés ici par ces cercles verts, mais que sélectivement les cellules stressées vont par contre exprimer ces ligands, vont être capables d'activer les CUNK, et que si on bloque cette inhibition, bah, l'activation des CUNK sera d'autant plus efficace. Alors on est passé de l'idée à l'acte, et en fait, on a généré, grâce à cette société de biotechnologie dans un premier temps, qui s'appelle Innate Pharma, puis maintenant, avec cette société beaucoup plus importante de pharmacie qui s'appelle BMS, on a généré des anticorps totalement humains, qui sont des anticorps thérapeutiques, enfin, l'ambition c'est que ce sont des anticorps thérapeutiques, qui vont bloquer l'interaction entre ces molécules KIR et les molécules de classe 1, de manière à bloquer l'inhibition. En quelque sorte, moins par moins ferait plus, et permet donc cet anticorps a pour ambition de lever l'inhibition des cellules NK. Donc cet anticorps s'appelle l'irilumab, et en fait, il a été déjà testé en phase 1 dans deux pathologies chez l'homme, qui sont les leucémies aiguës myéloïdes et le myélome multiple, et les résultats ont été extrêmement satisfaisants, puisqu'il n'y a pas d'effet secondaire, et ce qui permet donc maintenant d'engager des tests d'efficacité dans ces deux pathologies en phase 2. Mais j'ai quand même vous montré des résultats d'efficacité dans des modèles de souris. Alors en fait, on a pris un modèle de souris extrêmement particulier, qui est un modèle de souris qui n'a pas de T, enfin, pas de cellule T, pas de cellule B, et qui est transgénique pour la molécule humaine, de telle manière à pouvoir injecter l'anticorps anti-molécule humaine, donc l'anticorps médicament. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que dans cette souris, on peut lui injecter des tumeurs humaines. Et pourquoi on peut lui injecter des tumeurs humaines? Parce qu'il n'y a pas de cellule T, il n'y a pas de cellule B. Et donc, vous voyez que quand on injecte des cellules tumorales humaines qui n'ont pas les molécules de classe 1, eh bien, la plupart des souris survivent, c'est la courbe en vert. Il se trouve que cette survie est totalement NK-dépendante, puisque maintenant, quand on injecte la même cellule tumorale humaine, qui, encore une fois, n'a pas les molécules de classe 1, mais qu'on enlève les NK à l'intérieur de la souris, vous voyez que toutes les souris meurent, et elles meurent en 40 jours. C'est pour vous donner une idée de la force quand même des cellules NK dans la limite de ce modèle animal, hein, bien évidemment, quant au contrôle des pathologies tumorales. Maintenant, regardez ce qui se passe quand on exprime la molécule HLA-CW3, qui est une molécule HLA de classe 1, qui sert donc de ligand pour un récepteur inhibiteur, le récepteur ici transgénique KIR. Mais vous voyez que toutes les souris meurent, comme s'il n'y avait pas de cellules NK. En fait, il y a toujours des cellules NK, c'est juste qu'elles sont totalement inhibées par cette interaction-là. Donc là, encore une fois, dans la limite de ce modèle expérimental, il se trouve quand même, c'est un modèle qui prouve la force de cette inhibition. Alors c'est évidemment un très bon modèle pour tester l'anti-KIR, puisque la prédiction est que maintenant, si on bloque cette interaction, est-ce qu'on va redevenir, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation équivalente à celle-là, c'est-à-dire que toutes les souris sont guéries. Je pense que je ne vous montrerai pas la diapo si ce n'était pas le cas. Donc, en fait, oui, ça marche. Et vous voyez qu'ici, dans ce cadre expérimental, dans lequel, effectivement, on a injecté une tumeur humaine exprimant des molécules de classe 1 à très haut niveau, toutes les souris meurent, sauf si on bloque cette interaction par l'intermédiaire de l'anticorps médicament l'irilumab. Donc, ceci nous permet d'être assez optimistes, en tout cas d'espérer des bons résultats. L'anticorps l'irilumab est testé donc, en phase 2, comme je vous l'ai dit, dans les leucémies aiguës myéloïdes et dans le myélome multiple, mais il est aussi testé en thérapie, en combinaison avec d'autres anticorps qui sont les anticorps anti-CTLA-4 et anti-PD-1. Et je vais prendre une seconde quand même pour vous parler de cette révolution thérapeutique qui est celle donc, de ces anticorps qui vont moduler la réponse immunitaire, qui vont reprogrammer la réponse immunitaire. En fait, il se trouve qu'on vit en ce moment une révolution, encore une fois, dans la prise en charge de certains cancers, en particulier des tumeurs solides métastatiques. Et quand je parle de ces tumeurs solides, je parle essentiellement du mélanome, du cancer de la prostate et de certains cancers du poumon. Eh bien, il se trouve que, comme vous le savez, malheureusement, dans ces pathologies sont pour la plupart gravissimes quand elles sont métastatiques. Et quand elles sont métastatiques au diagnostic, généralement, l'espérance de vie est malheureusement pas très bonne. Vous voyez les résultats qui ont été obtenus maintenant en essayant de reprogrammer le système immunitaire avec des anticorps qui ne vont pas du tout cibler la cellule tumorale, mais qui vont cibler les cellules T, de telle manière, à l'instar de ce que je vous ai dit pour les cellules NK, inhiber l'inhibition. Et quand on inhibe l'inhibition des cellules T, eh bien, voyez ce qu'on obtient comme résultat en monothérapie avec l'anti-CTLA-4 ou avec l'anti-PD-1 ou en combinaison thérapie avec ces deux anticorps. Et d'ailleurs, l'anti-PD-1 aussi est très efficace. Voilà le genre d'activité que l'on peut avoir. Donc, ces individus ne sont pas devenus immortels, hein, mais quoi qu'il en soit, leur courbe, pour l'instant, dans les 2-3 années, avec les 2-3 années de recul qu'on a pour l'instant, les courbes de survie sont, pour une fraction des patients, parallèles à l'axe des X, ce qui est sans précédent dans ces pathologies qui sont gravissimes. Bien évidemment, il y a une marge de progression qui est considérable, parce que sur une grande fraction des patients, il n'y a pas d'effet de ces anticorps, mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont pu bénéficier de ces traitements, c'est évidemment plus qu'une bonne nouvelle. Donc, j'espère que vous pouvez maintenant mettre en perspective le lirilumab anti-KIR dont je vous ai parlé. C'est le premier anticorps, à ma connaissance, c'est le premier anticorps tout court d'ailleurs, qui a l'ambition d'être un checkpoint inhibitor, à l'instar de ceux dont j'ai parlé pour l'instant, et qui va spécifiquement cibler les cellules NK. Donc, le troisième message dont je voulais vous parler, c'est qu'effectivement, même si on ne connaît pas tout sur la biologie des cellules NK, même si le rôle des cellules NK dans le contrôle des pathologies humaines ou dans les pathologies humaines, même avec les data que je vous ai présentées aujourd'hui, reste encore quelque chose sur lequel il y a une marge de progression considérable, bah quand bien même, on peut se servir de cette connaissance fondamentale des mécanismes de reconnaissance des cellules NK pour essayer de mettre en place de nouveaux médicaments. Et ça me paraît intéressant au-delà des cellules NK. Parce que la plupart d'entre nous, disons que la plupart de ceux qui ont eu il y a 15 ans, l'envie de développer des thérapies, sont vraiment des chercheurs fondamentalistes. Ils n'ont jamais été guidés par le fait de traiter des patients, ce qui est profondément louable, bien évidemment, mais pour autant, ce n'était pas leur métier, ni même leur motivation. Leur motivation était simplement la curiosité. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre justification à la recherche fondamentale que celle de la curiosité. Et c'est important, parce qu'à partir du moment où on est curieux, quand bien même on est un chercheur fondamentaliste, ce qui n'est pas une tare par ailleurs, on peut aussi être intéressé par des applications cliniques. Et je pense que c'est un exemple. Bien évidemment, l'exemple sera probant que si la molécule marche et on a on est dans la patience d'avoir ces résultats. Alors, je vais finir par ce dont Alain vous a parlé en introduction, c'est-à-dire par essayer de vous faire partager une énigme d'abord, puis une esquisse de solution, et ensuite une base théorique qui est peut-être généralisable au-delà des cellules NK. Donc toute l'histoire commence par ce qu'on appelle l'éducation des cellules NK. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent à propos des cellules de l'immunité innée de manière générale. Premièrement, qu'elles sont non spécifiques, alors que, comme vous savez, il y a eu 3 prix Nobel qui ont été donnés il y a maintenant 3 ans, justement la spécificité des cellules du système immunitaire inné, et deuxièmement sur le fait que ces cellules réagissent toujours de la même façon, d'une manière un peu réflexe. En fait, je vais vous prouver que ce n'est pas le cas, et que comme n'importe quelle cellule, les cellules du système immunitaire inné sont capables de s'adapter à leur hôte. Alors le problème est le suivant. En fait, je vous ai dit que les cellules NK pouvaient reconnaître, dans un processus qu'on appelle le missing self, et qui a été identifié au départ par Klaus Schere au Karolinska Institute à Stockholm, qu'en réalité, donc, les CENK pouvaient reconnaître l'absence de molécules de classe 1 à la surface des cellules cibles. Et on comprend bien pourquoi ça se passe comme ça, c'est parce que les CENK ont des récepteurs inhibiteurs pour les molécules de classe 1. Donc, quand on injecte des greffes hématopoïétiques, donc là, de la moelle osseuse, mais ça pourrait être de la rate, d'une souris qui a perdu les molécules de classe 1, dans une souris wild-type, par ailleurs, ces souris sont exactement les mêmes, eh bien, ces greffes, sont rejetées, et elles sont rejetées par les CENK. Le problème auquel on a été confronté depuis une vingtaine d'années, c'est qu'en fait, dans les souris qui n'ont pas de cellules, qui n'ont pas de molécules de classe 1, il n'y a pas d'attaque des CENK contre cette souris. On devrait s'attendre, puisque les CENK peuvent attaquer des cibles classe 1 négatives, que dans une souris dans laquelle il n'y a pas de molécules de classe 1, les CENK sont soit à l'origine d'une certaine auto-immunité. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, ça prouve déjà que les CENK, si elles sont présentes dans ces souris, sont capables de s'adapter. Et effectivement, elles sont présentes non seulement dans plusieurs modèles de classe 1 déficience, mais elles sont aussi présentes chez les dizaines de patients répertoriés, à ma connaissance, à travers le monde, et qui sont aussi classe 1 déficients. Ces patients présentent des pathologies, mais qui n'ont rien à voir, autant qu'on puisse le comprendre, avec une activité NK. Donc, dans ces individus, ou dans ces modèles de souris, les cellules NK sont présentes, mais en fait, elles sont hyporéactives. Et c'est parce qu'elles sont hyporéactives qu'elles peuvent être tolérantes par rapport à l'ensemble de ces cibles qui sont autour d'elles et qui sont classe 1 négatives. Et en fait, le travail de nombreux groupes à travers le monde a conduit à ce schéma extrêmement simple. Et le schéma est le suivant. Le schéma est qu'en fin de compte, les cellules NK qui peuvent reconnaître les molécules de classe 1 qui se trouvent, s'appelaient H2B chez la souris ou chez cette souris-là, et les récepteurs inhibiteurs qui correspondent s'appellent Y49, et bien quand les cellules NK reconnaissent les molécules de classe 1 qui sont exprimées à l'intérieur de l'organisme dans lequel elles sont, par l'intermédiaire de leurs récepteurs inhibiteurs, les cellules NK ensuite sont capables d'être très activables. Comme vous voyez ici, elles induisent un flux calcique, elles produisent des cytokines comme du gamma interféron. Mais que dans les situations dans lesquelles les cellules NK ont bien des récepteurs pour reconnaître les molécules de classe 1, mais qu'il n'y a pas de classe 1 en face, à ce moment-là, on dit que les CENK ne sont pas éduquées par les molécules de classe 1, qu'elles n'ont pas pu reconnaître puisqu'il n'a jamais été là, et il se trouve que la conséquence, c'est leur hyporéactivité dont je vous ai parlé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, en fait, n'est pas totalement anodin, parce que je vous ai dit au départ que la perte de classe 1 permettait, en fin de compte, de rendre une cible sensible aux CENK, alors que, donc, c'est ce que j'ai représenté là, en disant qu'en fait, la perte soudaine des molécules de classe 1 était responsable de l'activation des CENK. On prend une CENK, on lui met une cible classe 1 négative, elle va la tuer. Par contre, je suis en train de vous dire que quand une CENK est élevée, éduquée, dans un environnement dans lequel il n'y a pas de classe 1, donc la perte chronique de classe 1, en réalité, je ne fais que changer les mots, mais c'est la même chose, eh bien, ça conduit à l'inverse, ça conduit à l'hyporéactivité des CENK. Donc le temps a de l'importance. Et c'est une notion qui nous paraît absolument fondamentale. Donc, cette diapositive juste récapitule ce que je viens de vous dire. Donc, il existe des propriétés adaptatrices ou d'adaptation des CENK à leur hôte, ce qui n'est pas un scoop en soi-même, sauf qu'on distingue l'immunité innée par rapport à l'immunité adaptative, donc il y a un problème de terminologie qui me semble majeur, c'est un autre problème. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les mécanismes. Donc, je vais aller très vite, parce que je vois que je n'ai plus beaucoup de temps, mais en fait, c'est extrêmement simple. Il se trouve que les récepteurs inhibiteurs qui reconnaissent les molécules de classe 1, donc là, la CENK est là, hein, en bas, les récepteurs à classe 1 sont là, et la cellule cible est en face avec ces molécules de classe 1. Eh bien, ces récepteurs inhibiteurs qui reconnaissent classe 1, ils ont un motif ITIM qui a été montré comme pouvant initier plusieurs voies de transduction complètement différentes. Premièrement, une tyrosine phosphatase plutôt inhibitrice, je vais très vite, s'appelle SHP1, une tyrosine phosphatase plutôt activatrice, je vais vraiment très vite, s'appelle SHP2, et puis une autre voie complètement différente qui implique C-Abl et CRAC. Donc, étant donné qu'il a été montré que la reconnaissance des molécules de classe 1 par les récepteurs inhibiteurs était très importante pour l'éducation, on a voulu disséquer moléculairement quelles étaient les molécules SHP1 ou SHP2 ou c-Abl ou CRAC qui étaient vraiment impliquées dans ce phénomène. Alors, un petit mot sur les tyrosines phosphatases. Il y a énormément de tyrosines phosphatases. Vous voyez qu'il y en a plus de 100 qui ont été répertoriées à l'heure actuelle chez l'homme. Elles se groupent en diverses catégories. Et il se trouve que la première phosphatase sur laquelle on a porté notre attention s'appelle SHP1. Et comme vous voyez, elle est exprimée partout. Et c'est bien le problème, parce que quand on enlève SHP1 dans une souris, elle est extrêmement malade. En fait, à ma connaissance, il n'y a pas d'individus qui sont SHP1 déficients. Et tant mieux pour eux, parce que la prédiction serait quand même qu'ils seraient extrêmement malades. Moss eaten, en anglais, ça veut dire mité. C'est pour vous donner à peu près l'idée. Voilà une souris normale, au même âge que sa collègue mité. Donc vous pouvez apprécier qu'elle n'est pas en bonne forme. En fait, compte, elle présente des phénomènes auto-immuns inflammatoires extrêmement importants, aigus, avec une dermatite, une pneumonie stérile, et puis aussi donc, de l'auto-immunité, et qui conduit donc à une mort prématurée. Il se trouve qu'en manipulant la génétique de la souris, on a pu enlever spécifiquement ces molécules SHP1 à l'intérieur des CUNK sans l'enlever dans les autres cellules. Et ça, ça a été bien parce qu'on n'a pas eu du tout ce phénotype. La souris est normale, elle se reproduit très bien, elle est très heureuse, pour autant qu'une souris puisse être heureuse dans une cage à Marseille. Mais c'était très important parce que pour l'instant, toutes les études qui ont été faites sur le rôle des SHP1 ont été évidemment complètement oblitérées en quelque sorte par le fait qu'il y avait des phénomènes auto-immuns inflammatoires très importants. Alors pour faire court, les CUNK sont présentes. Mais les cellules NK, en absence des SHP1, présentent exactement le même phénotype que les cellules NK dans une souris qui n'a pas classe 1. Et ça, vous pouvez le voir à travers plusieurs readouts, je vais passer très vite là-dessus, okay. Et en particulier, elles sont non réactives. Là, vous voyez ici une cellule NK contrôle qui est mise en place en face d'une cible tumorale. Elle va se mettre à sécréter de l'interféron gamma. Vous voyez qu'une cellule NK qui est issue d'une souris dans laquelle il n'y a pas SHP1 sélectivement dans les cellules NK n'est pas capable de sécréter de l'interféron gamma. Elle n'est pas capable non plus de lyser des cellules cibles. Il faut comparer le blanc par rapport au noir. Vous voyez que le noir est toujours en dessous. Et puis, là, vous voyez le développement tumoral à l'intérieur d'une souris. Hein, il s'agit de vidéos, en fait, de bioluminescence, d'images de bioluminescence. Vous voyez là, le développement tumoral dans des souris contrôle est extrêmement limité. Plus c'est jaune, plus c'est rouge, plus ça prolifère. Je parle des cellules tumorales. Et vous voyez que ce qui se passe dans 5 souris qui sont déficientes en SHP1. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la perte de SHP1 était exactement similaire à la perte des molécules de classe 1. Deuxièmement, et ça, je ne vais pas vous montrer les datas, on a pu montrer qu'en enlevant SHP1 sélectivement, ces molécules inhibitrices ne fonctionnaient plus. Donc, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a enlevé un récepteur inhibiteur, enfin, on a enlevé la fonction inhibitrice d'un récepteur inhibiteur, et on se retrouve avec des cellules qui sont totalement hyporesponsives. Je l'ai dit, c'est exactement le même paradoxe que celui qui consistait à dire que quand on enlevait les molécules de classe 1, on se retrouvait aussi avec des cellules qui, plutôt que d'être activées, puisque je vous rappelle qu'il s'agit de récepteurs inhibiteurs, étaient inhibées. Donc, en fin de compte, pour faire vite, voilà le modèle avec lequel, le modèle que l'on défend à l'heure actuelle. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on avait cette cascade, les molécules de classe 1 qui étaient reconnues par des récepteurs à classe 1 et ce signal qui était intégré par SHP1. Ben, quand on enlève classe 1, ou le récepteur à classe 1, ça je ne vous l'ai pas montré, mais c'est fait aussi, ou quand on enlève la tyrosine phosphatase qui est liée au récepteur de classe 1, on a exactement la même chose. Et bien, il se trouve que le modèle que l'on favorise est celui-là. On pense que les cellules NK, parce qu'elles sont des cellules innées, et parce qu'elles ont cette panoplie de récepteurs activateurs, ont la capacité de reconnaître de nombreux ligands activateurs partout et tout le temps à l'intérieur de l'organisme. Et que si ce signal n'est pas inhibé par cette reconnaissance à travers les molécules de classe 1 et leurs récepteurs spécifiques et cette tyrosine phosphatase, eh bien, cette activité de stimulation constante va conduire à l'anergie de la cellule. C'est un phénomène de désensibilisation, phénomène qui est extrêmement classique en biologie et conservé à travers les espèces. Vous voyez effectivement donc quelques-uns des récepteurs qui sont exprimés par les CUNK. Hein. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer quand même l'ensemble des signaux qui sont intégrés par la CUNK au cours du temps. Et notre hypothèse, c'est que si ces signaux ne sont pas antagonisés par des signaux inhibiteurs, comme ceci, eh bien la cellule va devenir anergique. Alors, en quoi ceci nous dit quelque chose? Eh bien parce que, je reprends cette diapositive pour les 6 minutes qui me restent, je vous ai dit que la perte soudaine de classe 1 conduisait à l'activation des CUNK. Je vous ai dit aussi que la perte chronique de classe 1 conduisait à l'hyporéactivité des CUNK, c'est-à-dire l'inverse. Et je vous ai montré que c'était certainement un mécanisme de désensibilisation qui passait par une tyrosine phosphatase qui s'appelle SHP1. Ce que je ne vous ai pas dit, et ce que d'autres collègues ont fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de jouer sur les récepteurs inhibiteurs, ici en rouge, ils ont joué sur les récepteurs activateurs, en vert. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exprimé de manière transgénique, ils ont surexprimé de manière constante des ligands pour des récepteurs activateurs. On peut imaginer qu'enlever de l'inhibition, enlever du frein, ou appuyer sur l'accélérateur, ça peut revenir à peu près à la même chose. Et de fait, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que l'expression chronique, transgénique de ligands activateurs va conduire à la même hyporéactivité, en tout cas on ne peut pas les distinguer, que l'hyporéactivité qui est obtenue quand on enlève des récepteurs inhibiteurs ou quand on enlève la fonction inhibitrice des récepteurs inhibiteurs. Donc je pense que ces données confirment véritablement notre modèle comme quoi c'est une désensibilisation dont il s'agit. Et que les CUNK sont capables de s'adapter de manière certainement constante à leur hôte, parce qu'elles ont toute cette panoplie de récepteurs activateurs et inhibiteurs qui permettent justement de jauger quel doit être le seuil d'activation des CUNK. Alors, pour être finaliste, je m'excuse pour ce finalisme, je pourrais le faire plus long, ça reviendrait au même, pour certainement être impliqué dans des pathologies qui sont aiguës plutôt que dans des pathologies qui ont tendance à être chroniques. Et donc, on en vient, me semble-t-il, à illustrer le fait que les cellules NK sont activées par ce qu'on appelle une discontinuité antigénique. En fait, le temps a de l'importance. Évidemment, le temps a de l'importance. Vous allez me dire, c'est trivial. Je veux bien que ce soit trivial, mais généralement, à ce stade de la présentation, les gens, et quelquefois les mêmes, disent deux choses qui me paraissent contradictoires. Ils disent, le temps a de l'importance, bien évidemment, on le sait, okay, et les mêmes disent, mais de toute façon, j'y crois pas. Alors, il y a quelque chose qui ne me paraît pas très clair. Alors, moi, je vais essayer d'élaborer, pour les 3 minutes qui me restent, un petit peu sur l'idée qu'effectivement, le temps, la discontinuité dans ce que le système immunitaire voit est quelque chose qui est essentiel, pas la seule chose, mais une chose essentielle dans la force des réactions immunitaires qui vont s'en suivre. Et juste pour vous dire, on a voulu tester notre hypothèse en particulier à travers les CUNK, à travers un modèle mathématique, puisqu'il nous semble que l'une des voies dans lesquelles la biologie devrait investir beaucoup plus, c'est celui des mathématiques. Il est évident que les mathématiques ont fait faire à la physique des produits, des progrès qui sont phénoménaux. La puissance du formalisme mathématique est absolument phénoménal. Bien évidemment, on a en face de nous, quand on s'intéresse à la biologie, on est en face de phénomènes qui sont extrêmement complexes, mais on pourrait argumenter sur le fait qu'ils ne sont pas forcément plus complexes que ceux auxquels les physiciens s'attaquent. Quoi qu'il en soit, on a voulu représenter très simplement, dans une version 1.0 de cette tentative de formalisme mathématique ou d'utilisation du formalisme mathématique, l'activation cellulaire comme étant l'intégration de signaux d'entrée qui vont varier avec le temps, qui vont être intégrés par toute une série de récepteurs, là on n'en représentait qu'un, pour en avoir 100, ça reviendra au même, et qui va se traduire par une réponse cellulaire, une réponse qui est R, qui est elle-même dépendante du temps. Voilà des vraies données. Ces données-là sont des données d'activation des CUNK en fonction du temps, le temps étant seconde, quand on induit l'engagement d'un récepteur activateur avec un anticorps. Eh bien, notre challenge a été de savoir si, en mimant l'arrivée de l'anticorps en fonction du temps, dont on peut penser qu'elle suit cette courbe noire ici, eh bien, on pourrait, grâce à un formalisme mathématique qui se développe sur cette diapositive ici, arriver à traduire la réponse de la cellule en fonction du temps qui est représentée en rouge. Donc si on est d'accord que l'arrivée de l'anticorps en fonction du temps a cette forme, vous voyez qu'on est loin, si on considère que la réponse cellulaire est juste une fonction de l'arrivée de l'anticorps en fonction du temps, on est loin du résultat, puisque je vous rappelle que le résultat expérimental est en gris, et là, le résultat qu'on aurait est en rouge, et on est quand même loin de l'affaire. Si on considère ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'une cellule va réagir en fonction de la vitesse à laquelle il y a eu un changement dans son environnement. C'est ce que j'ai essayé de vous dire en insistant sur le temps. J'ai dit une perte soudaine des molécules de classe 1, ça va activer les NK. Une perte chronique des molécules de classe 1, ça va inhiber les NK. Et l'inverse pour les récepteurs inhibiteurs, pour les récepteurs activateurs. Sans rentrer dans le détail du formalisme mathématique, tout ce qu'on a fait ici, c'est de dire ce qui est important, ce n'est pas tellement de considérer la concentration d'un antigène à un temps donné pour prédire quelle va être la réponse cellulaire, mais c'est la variation de la concentration de l'antigène à ce temps-là. C'est-à-dire que ce n'est pas la valeur absolue de la concentration de l'antigène, mais c'est la dérivée de cette courbe qui représente la variation de l'antigène en fonction du temps. Et quand on fait ça, on arrive effectivement à avoir cette courbe rouge. Vous voyez qu'elle correspond pas mal aux données expérimentales. Donc, je suis désolé, j'ai dépassé du... Est-ce que je peux encore prendre 2 minutes ? Donc, il se trouve que... Vous avez bien compris, notre ambition, ce n'est pas de dire cette théorie qu'on va appeler la théorie de la discontinuité rend compte de l'ensemble de la réponse immunitaire. Simplement pour vous dire, cette théorie qu'on appelle la théorie de la discontinuité est basée sur des faits, est basée sur des datas. Ces datas sont celles que l'on a pu extirper de la dissection de la biologie des cellules NK à travers certaines expériences que j'ai représentées ici. Il se trouve que ça a été cette théorie, comme d'autres d'ailleurs, à l'origine d'un colloque qui s'est déroulé pendant ces derniers jours, d'ailleurs il est en train de se finir maintenant, pas très loin, à la Sorbonne, où justement la question était celle du self. Vous savez que l'ensemble de notre pensée, enfin une grande partie de notre pensée, qui permet quand même d'avoir un cadre théorique pour l'organisation de la réponse immunitaire, c'est de considérer très simplement que la réponse immunitaire, c'est quelque chose qui va être tolérant au self, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de réponse immunitaire contre le self, et au contraire, qu'il va y avoir une réponse immunitaire qui est orientée sur le non-self, le non-self étant défini par l'opposé du self, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas self serait le non-self. Bon, il y a énormément d'exceptions à cette soi-disant règle du self et du non-self, et ce qu'on veut simplement dire, nous, c'est que, bien évidemment, il y a une importance du façonnage des structures de reconnaissance. Comme Alain l'a dit lors de sa leçon, il existe des récepteurs, par exemple les toll-like récepteurs, qui reconnaissent des produits microbiens. Donc effectivement, c'est assez tentant de spéculer qu'il y a eu une coévolution entre ces récepteurs de reconnaissance et les microbes. Mais par ailleurs, ce que nous essayons de défendre à travers la dissection de l'activation des CUNK, c'est que le temps d'apparition, la vitesse d'apparition de ces antigènes au sens large à l'intérieur d'un organisme est un paramètre extrêmement crucial pour l'apparition de la réponse immunitaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que l'induction très lente d'un antigène dans un organisme ne conduit pas à une réponse immunitaire, alors que l'introduction de la même quantité d'antigènes de manière brusque conduit à une réponse immunitaire. Bien évidemment, il reste beaucoup de choses à analyser. Simplement, tout ce qu'on veut dire avec cette théorie, c'est que, premièrement, elle n'est pas complètement nouvelle. D'ailleurs, il y a une publication majeure de Grossman et Paul qui va exactement dans ce sens, et qui dit que ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'antigènes perçus par une cellule du système immunitaire à un moment donné, mais la variation de cette quantité d'antigènes en fonction du temps. C'est ça qui est un paramètre qui est très important. Et voilà. Et je pense que je vais finir là. Donc, juste pour vous dire que cette théorie a été proposée dans un essai dans cette revue. Il y a aussi donc des articles dans Le Monde qui se sont intéressés à ça. Et je pense qu'il y a des prédictions intéressantes, mais j'ai vraiment pas le temps de vous en parler. Donc, en conclusion, j'ai essayé de vous dire que les CUNK étaient des cellules intéressantes, qu'il y avait véritablement un domaine sur lequel on devait progresser. Mais on a des données nouvelles qui nous permettent, je pense, d'entrevoir une piste. Mais qu'a priori, donc les déficiences en CUNK sont associées à des pathologies chez l'homme, que le développement NK est associé à une division, alors que ça n'avait jamais été mis en évidence, qu'on peut manipuler les CUNK dans le cadre de certaines pathologies tumorales grâce à des anticorps qui bloquent les récepteurs inhibiteurs et que ça fait partie d'un cadre plus général qui est celle de la révolution de la prise en charge des pathologies métastatiques grâce à ces anticorps qu'on appelle des checkpoint inhibiteurs. Et puis j'ai essayé de vous dire aussi que les CUNK, bien que faisant partie du système immunitaire inné, avaient des capacités adaptatives et qu'on pouvait peut-être en tirer quelque chose sur l'organisation générale de la réponse immunitaire avec cette théorie de la discontinuité. Je voudrais finir par remercier les personnes du laboratoire et nos collaborateurs et surtout ceux qui nous financent. Merci beaucoup.